France Culture. France Culture, sans préjugés. Nathan Dever.
Le 2 septembre 2024 s'ouvrait au tribunal d'Avignon un procès hors norme, voué, sinon à provoquer une prise de conscience collective, du moins à tendre un miroir à notre société. L'affaire dite des viols de Mazan, du nom de ce village où pendant des années, Dominique Pollicaud a drogué son épouse pour la livrer à des dizaines de violeurs trouvés sur Internet. Un véritable dispositif de la criminalité sexuelle a ainsi été mis en place, impliquant 51 co-accusés au profil très divers, sans qu'aucun de ses membres ait songé à mettre fin au calvaire de Gisèle Pellicot. Pendant plus de 3 mois, des dizaines de journalistes, mais aussi des écrivains, des dessinateurs de presse, des militants ont assisté à ce procès, à la fois pour le documenter et pour tenter de comprendre. Leur tâche était lourde. Comment relater ces événements terribles sans leur assigner un schéma narratif qui serait préétabli ? Quelle distance intellectuelle adopter par rapport aux victimes, aux accusés et aux rouages du tribunal lui-même ? Comment le témoignage journalistique ou littéraire doit-il se positionner vis-à-vis des méthodes judiciaires ? Comment, à partir de la description d'une affaire criminelle précise, aussi tentaculaire soit-elle, peut-on déployer une réflexion collective, sinon universelle ? Un an après, comment mettre en récit l'affaire Pellicot ? Telle est la question que nous allons explorer sans préjugés, aux côtés de la journaliste et dessinatrice judiciaire Marion Dubreuil, de l'écrivaine Claire Berest et de la chroniqueuse judiciaire Louise Colcombé.
France Culture, sans préjugés, Nathan Dever.
Bonjour Marion Dubreuil, vous êtes journaliste et dessinatrice judiciaire et auteur de Mazan, La traversée du Styx, aux éditions du Globe. Bonjour Claire Berest.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine et auteur de La chair des autres, aux éditions Albin Michel. Bonjour Louise Colcombé, vous êtes chroniqueuse judiciaire au journal Le Parisien et co-autrice avec Mathieu Palin de la bande dessinée Notre Affaire, aux éditions L'Iconoclaste. La première question que je voulais vous poser, c'était de savoir comment vous trois, vous en êtes venus dans votre parcours professionnel, personnel, à couvrir le procès Pellicot et à être confronté à la perspective de le raconter. Alors Claire Berest, dans votre ouvrage, vous racontez qu'au début, quand le magazine Paris Match vous a proposé de vous rendre à Avignon pour écrire des articles, eh bien, vous avez eu un premier mouvement de panique, de recul ou d'interrogation là-dessus. Qu'est-ce qui vous a amené à accepter finalement ?
Oui, effectivement, je me trouve à côté de deux personnes dont c'est le métier, qui ont l'habitude, et étant une sorte de passionnée, même si le terme est étrange, de faits divers depuis mon enfance, j'ai énormément d'admiration pour le travail de mes camarades. Et effectivement, premier mouvement de panique, parce que je ne suis pas journaliste, je ne suis pas chroniqueuse judiciaire, et quand Paris Match me contacte au mois de septembre, le procès a déjà commencé, il a commencé le 2 septembre, vous l'avez rappelé. Comme beaucoup, beaucoup de gens en France, peut-être tout le monde, je le suis, en spectatrice, à distance, extrêmement investie aussi, je pense, comme beaucoup de gens en France. Et tout d'un coup, on me propose de passer de l'autre côté du miroir. Pour l'affaire Coote, j'en avais absolument pas la possibilité, et donc il fallait absolument que j'y aille. C'est-à-dire que c'était une sommation à me mêler à cette interrogation collective, et donc je ne pouvais pas me dérober. Mais j'ai dit à Paris Match, j'y vais. Si je sens que je vais ajouter du bruit au bruit et que ce que j'écris n'a aucun intérêt, eh bien je n'écrirai pas. Et ils ont eu la gentillesse de me faire confiance et de me dire très bien, eh ben vas-y et tu verras si tu peux écrire. Et j'ai suivi la première journée d'audience. Je suis arrivée dans ma chambre d'hôtel le soir. Avec mes camarades, on était tous dans une situation comme ça très très intense et je n'ai pu faire qu'écrire.
Marion Dubreuil, vous c'est un petit peu le contraire puisque votre métier est précisément d'être journaliste et dessinatrice judiciaire. Vous avez couvert énormément de procès. D'ailleurs, dans votre livre Mazan, la traversée du Styx, très souvent vous mettez en lien l'affaire Mazan, l'affaire Pellicot et ce procès avec beaucoup d'autres affaires judiciaires. Est-ce que pour autant, quand vous avez commencé à couvrir ce procès et même avant, vous avez tout de suite compris que vous aviez affaire à un procès hors norme ou extrêmement spécial?
On savait que c'était un procès hors norme qui s'annonçait. Moi, j'ai appris au courant du mois de juin que ce serait une audience publique, en tout cas que c'était le souhait de Gisèle Pellicot. On attendait quand même que ce soit confirmé à l'audience. À partir de ce moment-là, on sait déjà que ce sera une audience historique quand on couvre les affaires, notamment de violences sexuelles et sexistes en France, quand on couvre les grands procès. Moi, c'était une évidence que ma place était au tribunal d'Avignon. Et mon enjeu à moi, c'était de convaincre ma rédaction de m'accompagner sur cette détermination. Et en réalité, j'avais réservé l'hôtel pour 2 semaines, les 2 premières semaines d'audience. Et la 3e semaine, j'ai réussi à me mettre d'accord avec ma rédaction qu'il fallait suivre ce procès in extenso. Et elle m'a suivi sur ce choix, qui est un choix quand même courageux pour une radio privée, grand public. Parler du viol tous les jours, c'était aussi un choix éditorial. Je pense que c'était indispensable. Les seuls jours où j'étais pas à Avignon pour des raisons personnelles, pour des raisons professionnelles parfois, parce que comme je le dis dans mon livre, j'ai souhaité quand même couvrir aussi les audiences du Me Too Cinéma dont j'avais suivi les affaires, parce que j'avais aussi envie de chercher de la cohérence et un écho dans d'autres juridictions. Si j'étais pas au tribunal d'Avignon, j'étais malgré tout au tribunal d'Avignon. Et je pense que c'est ce que vous dites aussi, Claire, c'est qu'en fait... On ne peut pas s'extraire d'une audience pareille, il faut pouvoir la suivre de bout en bout.
Oui, alors Louise Colcombet, avant de vous poser la même question, je voulais aussi vous questionner sur le fait que votre ouvrage, donc cette bande dessinée ou ce roman graphique, dont vous avez été la co-autrice avec Mathieu Palin, avec énormément de contributeurs, de dessinateurs, s'est lui-même retrouvé au cœur d'une affaire, et peut-être d'ailleurs que ça illustre la difficulté de la question que nous traitons aujourd'hui, puisque un des contributeurs, des dessinateurs, si je ne me trompe pas, il a été révélé qu'il avait fait lui-même l'objet d'accusations pour violence. Est-ce que vous avez un mot à dire sur cette affaire-là ?
Oui, alors effectivement, au lendemain même de la parution, c'est à travers un post Instagram qui a été placé sur le compte de Mathieu Palin, mon co-auteur. Cette ancienne compagne a révélé avoir déposé plainte et l'accuse de tout un tas de violences. Effectivement, on a un peu posé cette question parce qu'on a tout appris ce jour-là, hein. Donc on a essayé de se renseigner, de comprendre ce qui avait pu se passer. On déplore un peu le fait qu'on n'ait pas pu le savoir parce qu'évidemment ça aurait changé beaucoup de choses. Moi j'ai travaillé un certain nombre d'heures, beaucoup d'heures avec ce dessinateur, et c'est vrai que même si ça avait été classé sans suite, que c'était il y a plus de 10 ans et que pour lui c'était une affaire ancienne, ça lui est pas venu à l'esprit de nous en parler, et j'avoue que je ne lui ai pas posé la question non plus. Donc on ne le savait pas, mais ce que ça montre, et ce qu'on en parle dans la BD, c'est que finalement les violences, elles sont systémiques, et ça peut être les auteurs de violences peuvent être un peu n'importe qui, c'est pas écrit sur leur front, et ça peut être des gens qu'on aime, qu'on admire, avec qui on travaille. Je vais paraphraser le nom du livre de Mathieu Palin, mon co-auteur, mais ça peut être nos pères, nos frères, nos amis. Et donc voilà, on s'est un peu retrouvé rattrapé par notre sujet, mais on fait œuvre de transparence.
Oui, ce sera aussi d'ailleurs une des questions qu'on va traiter sur les 51 profils extrêmement différents de tous ces co-accusés qui venaient de tous les milieux sociaux, qui avaient toutes les personnalités et toutes les questions que ça posait. Mais aussi, je voulais vous demander, dans votre cas, dans celui de Marion aussi, on y reviendra, mais le projet d'un roman graphique, c'est-à-dire de montrer, et de dessiner, par définition, le visage, notamment de Dominique Pellicot, à part quelques anciennes photos qui ont pu être montrées dans la presse ou circuler sur Internet, son visage au moment du procès était invisible. Donc nous avions des descriptions de gens qui ont pu le suivre. Les descriptions étaient parfois d'ailleurs légèrement différentes. Et puis les dessins étaient aussi parfois extrêmement divers. Certains le représentant entre guillemets comme un homme fatigué, entre guillemets en mettant en relief la banalité de son visage, d'autres essayaient de lui montrer un regard plus intense avec quelque chose. Vous, comment est venu ce projet d'un roman graphique ou d'une bande dessinée sur l'affaire Mazan ?
Alors, il faut en attribuer la paternité aux éditions de l'Iconoclaste, qui avait déjà, il y a 2 ans, produit un livre très intéressant, une BD collective qui s'appelait « Femmes, vie, liberté » sur l'Iran, et qui permettait, pour l'avoir lu de façon très pédagogique, de mettre en lien beaucoup d'éléments culturels, géopolitiques, et de décrire ce que c'était cette révolte en Iran. Et l'idée est venue de faire la même chose sur Mazan pour dépasser le simple cadre du procès. Il sert de fil rouge au livre. vivre. Mais l'idée, c'est d'aller au-delà, de faire des pas de côté sur la soumission chimique, le mythe de la virilité, et aussi des solutions. Essayer d'aller dépasser pour, une fois qu'on a fait ce constat de la banalité de ces hommes et du crime, essayer d'en décrypter les enjeux, mais surtout d'essayer de proposer autre chose, et notamment aller voir ce qui se passe à l'étranger. Et finalement, le dessin, je trouve, moi qui suis très habituée à la chronique judiciaire et même à écrire parfois un peu long, je me faisais cette remarque finalement qu'en fait, en travaillant cette façon d'écrire en BD, l'image peut convoyer beaucoup de choses. Et on fait des ellipses, on peut montrer sans montrer, parce qu'il n'était en aucune manière dans notre idée de retracer les aspects les plus abjects de cette affaire, mais au contraire de ramener vers l'universel, de se départir du singulier pour revenir à ce crime de masse qu'est le viol.
Marion Dubreuil, est-ce que vous partagez le même regard sur le dessin ?
Moi, c'est particulier puisque le dessin, je l'exerce dans la salle d'audience, donc j'ai un rapport quand même assez intime et personnel au dessin. Dans une audience, par exemple, comme celle de Mazan, il y avait à la fois une urgence de documenter parce que on comprend aussi que tant que ce n'est pas montré, il y a une forme de vérité judiciaire qui échappe aux retranscriptions. Je vais vous donner un exemple. Je dessinais un des accusés qui pleurait à la barre en disant que, en refusant d'accepter d'être qualifié de violeur, qui avait du mal à se voir comme tel, et je l'ai dessiné comme je l'ai vu, un homme, et j'ai reçu un message d'une internaute qui me dit ça fait du bien de le voir comme un homme, parce que à l'écouter on croyait que c'était un petit garçon. Et je pense que c'est ça le pouvoir aussi de l'image, c'est de s'imposer. Alors après, on a tous eu des manières de dessiner quand on était dessinateur judiciaire à l'audience. En effet, Dominique Pellicot différemment. Je pense que c'est ça, pour moi, la richesse d'une bande dessinée, c'est de montrer différentes expressions. C'est pas un portrait panégyrique qui va rester pour la postérité. C'est justement de montrer l'humanité qui peut y avoir, y compris dans une personnalité criminelle comme celle de Dominique Pellicot. C'est de montrer les variations d'émotions, de postures, à la fois, en effet, ce vieil homme fatigué, qui a des problèmes de santé, mais aussi celui qui tente de reprendre un ascendant sur l'audience. Voilà, moi je pense que je ne suis pas dans le même projet, mais c'est ça la richesse aussi, c'est ce qu'on disait, de toutes les productions littéraires, artistiques, en dessin ou en écrit, qui vont paraître sur ce procès, c'est qu'il n'a pas été capté. Il n'y a pas eu de captation donc de vidéo de cette audience, à contrario d'autres audiences qu'on redécouvre aujourd'hui, le procès Klaus Barbie, par exemple, pour n'en citer qu'un. Je pense que moi, j'ai envie de faire un devoir de mémoire de cette audience dans la bande dessinée sur laquelle je travaille avec Futuropolis, c'est-à-dire de pouvoir retourner à une vérité judiciaire de l'audience telle qu'elle s'est déroulée, après toujours dans mon regard, et on est toujours situé, avec des moments d'audience importants, avec aussi la circulation que ce procès a suscité entre la société civile, l'enceinte judiciaire, les magistrats, les journalistes, et je pense que moi j'ai envie de laisser trace.
France Culture, sans préjugés, Nathan Devers.
Claire Bérez, vous racontez dans votre livre que quand vous avez appris l'existence de l'affaire Pellicot, vous tombez sur un site internet, une dépêche qui résume en quelques phrases l'histoire, qu'au début votre réaction est de vous dire c'est trop gros, je n'y crois pas, et vous pensez même que c'est une sorte de site avec un peu parodique ou avec des fake news ou un site destiné à attirer comme ça l'attention de l'internaute. Et ensuite, donc vous nous avez raconté comment vous êtes arrivé dans ce processus. Est-ce que vous avez eu l'impression de voir progressivement, au jour le jour, à mesure que vous assistiez aux séances, ce procès prendre une importance énorme dans la société civile ?
Effectivement, je pense qu'on a été nombreuses à avoir reçu cette première information de ce fait divers. C'était encore un fait divers, c'est devenu un fait de société, avec une sorte de sidération et de stupéfaction, évidemment hors norme par le chiffre, l'étendue, la méticulosité, l'organisation, plus de 70 hommes, hein, même s'il y en avait 51 dans la salle, 10 années de sévices infligés à cette femme. Et effectivement, quand je me mets à écrire le livre, ce qui est un second temps d'écriture, puisqu'on réfléchissait aux différentes écritures. Il y a eu l'écriture pendant le procès, comme mes consoeurs chroniqueuses judiciaires, de l'immédiateté à chaud, de la chronique, c'est-à-dire de rendre compte du passage des jours pour tenter de saisir quelque chose qui tous nous arrête. Et puis, quand une conclusion judiciaire est posée, il y a d'autres écritures qui arrivent, et nous en sommes toutes les trois la preuve, avec un autre temps, un autre champ. Quand je suis dans la salle, est-ce que je comprends que c'est hors norme ? C'est une question qui est difficile de ne pas retricoter a posteriori. La chose qui me reste aujourd'hui, c'est qu'une foule de questions arrive. C'est-à-dire, quand on fait un travail de journalisme, quand on fait un travail d'information avec la noblesse qui est sous-entendue, c'est-à-dire donner, transmettre des informations à des gens qui sont des informations vérifiées, sourcées, qui sont des informations solides pour que les gens puissent y avoir accès. Quand on fait ce travail-là, on n'a absolument pas la possibilité encore de prendre le champ des questions vertigineuses qui arrivent. Et une des questions était que, avant d'arriver... Il y a effectivement une masse d'hommes qui se dessine. Je pense qu'on a tous eu ce sentiment-là. C'est pas des individus, c'est une masse. Comment il y a une meute? Est-ce que c'est tous les hommes? Il y a une sorte d'abstraction et qui tout d'un coup fait discontinuité dans notre réflexion sociétale. Et puis on arrive à Avignon, on arrive dans cette salle et il y a 51 hommes. Je mets Dominique Pellicot une seconde de côté. Il y a 50 co-accusés. Qui ont entre 22 et 68 ans au moment où les faits se déroulent, qui viennent de tout type de milieux, qui sont mariés, non mariés, qui ont des réussites professionnelles, d'autres non. Il y a des individus. Et je dois dire que moi, mon plus grand choc, c'est de me rappeler que dans cette salle, il y a les victimes avec lesquelles je souffre, et puis il y a aussi mes frères humains, qui sont les accusés, qui ont tous des parcours très différents, et que nous sommes réunis, et c'est ça la justice, pour regarder individuellement chacune des personnes qui se retrouvent au cœur de cette infâme tragédie. Et ces questions qui arrivaient chaque jour, je suis arrivée en ayant lu l'ordonnance de mise en accusation, je suis arrivée en ayant connaissance d'un certain nombre de choses. Ce que j'ai compris, c'est que je ne savais rien. Et que c'est ça l'audience, c'est de douter pas du tout de ce qui nous est évidemment raconté et montré, mais d'avoir des questionnements sur comment on en arrive là, pourquoi on en arrive là, et que rien n'est facile, et qu'on ne peut pas jeter des anathèmes, il faut ensemble faire œuvre de justice et donc s'arrêter sur chaque personne.
Et c'est très intéressant ce que vous dites surtout ces accusés. Il y avait eu un texte qui avait été publié écrit par Lola Lafont, au milieu du procès, si ma mémoire est bonne, en tout cas pendant le procès, où elle disait ce panel, je ne sais pas si ce terme est le meilleur, mais d'accusés, quand on le regarde en face, quand on voit la diversité de ses profils, il sonne le glas de la mythologie du monstre. Est-ce que vous partagez ce constat, Marion Dubreuil ?
Évidemment, je le partage et je dois dire que moi j'ai longtemps été fascinée aussi par les grands criminels. D'ailleurs, au départ, je suis allée aussi dans des tribunaux pour aller en voir. Il faut être très honnête. En revanche, c'est aussi la fréquentation des tribunaux qui m'a éloignée de l'idée d'une figure de monstre. C'est de voir, en effet, sur les bancs de la défense, des hommes, des parcours individuels, de voir des accidents aussi, de voir, enfin voilà, c'est de regarder des hommes, et je pense que à Avignon tout particulièrement, ils étaient si nombreux qu'on ne pouvait pas se raconter la fable de monstre. C'était une fable impossible, et c'est ça la vertu aussi de ce procès, c'est que cette conviction qu'on avait, je pense qu'on partage avec par exemple Louise, qu'on était nombreuses à avoir, de se dire arrêtons de parler de figures repoussoires, de tout mettre sur l'étranger, le fou, le marginal, celui qui porterait tous les maux. Essayons de regarder aussi chez les hommes, parce que c'est chez eux qu'on trouvera ce parcours d'impunité, c'est chez eux qu'on trouvera ces carrières criminelles aussi. Et je pense que Mazan a permis, en effet, que collectivement, on puisse faire advenir cette vérité judiciaire que les accusés ne sont pas des monstres, que les violeurs ne sont pas des monstres.
Oui, alors il y a la figure, enfin les figures, en effet, de ces violeurs. Il y en a et de ces accusés. Il y a une personne dont on a pour l'instant peu parlé, mais qui a évidemment pris une importance centrale. Et d'ailleurs, sans doute, est-ce elle qui a donné cette importance au procès, puisqu'elle a refusé le huis clos. C'est Gisèle Pellicot, qui est devenue progressivement, encore une fois, je n'aime pas énormément ce mot, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas certains ont parlé d'icône du féminisme, en tout cas qui a pris une importance énorme, aussi bien auprès de l'opinion française que dans l'opinion internationale. Louise Colcombé, dans votre dans la bande dessinée roman graphique Notre Affaire, vous montrez beaucoup, notamment au début, mais c'est vraiment un des fils rouges, le visage de Gisèle Pellicot. Pour vous, elle a incarné quoi au moment du procès et qu'incarne-t-elle aujourd'hui?
Gisèle Pellicot, on a choisi de mettre son visage sur la couverture de notre livre parce que, qu'elle l'ait souhaité ou non, c'est un fait. Aujourd'hui, son visage incarne le combat contre les violences sexuelles et son visage, est presque en soi un slogan. On parlait tout à l'heure de la tribune de Lola Lafont. En fait, elle l'a écrite dans les tout premiers jours à partir de cette photo du premier jour prise de Gisèle Pellicot qui a ses lunettes de soleil. Et ces lunettes de soleil, nous, on a l'impression qu'elle nous interpellait, en fait, elle nous renvoyait à nos propres turpitudes, parce que nos visages se reflètent dedans. Qu'est-ce que nous, on tolère dans la société? Comment on réussit à prendre en compte ce problème du viol? C'est ce qu'elle a dit. En fait, elle souhaite, sa dernière déclaration, quand elle sort du tribunal le 19 décembre, c'est de dire qu'elle souhaite avancer vers un avenir où, collectivement, on pourra résoudre ces problèmes et aller vers une égalité homme-femme, ou plutôt femme-homme, puisqu'on change de temps. Et donc, effectivement, on parle d'icône, mais c'est aussi presque un passage obligé des médias. Elle a fait don de son image quelque part et de son histoire, de son intimité. C'est le grand déballage aussi, hein, les procès d'assises. Et quelque part, elle en fait don pour qu'on en fasse quelque chose d'autre. L'icône, nous, on l'a retracée dans la BD un petit peu en racontant effectivement ces lettres qui arrivaient du monde entier avec Gisèle Pellicot, Mazan, que les avocats recevaient à leur bureau, ces fleurs qu'on lui envoyait. Et aussi parfois des femmes qui se sont mises à pleurer en la regardant. Elle incarne aussi toutes ces femmes qui n'ont pas parlé avant. Elle fait écho à toutes ces violences qui n'ont jamais été révélées. Alors effectivement, méfions-nous des icônes parce que quelle est la victime parfaite? On a vu d'ailleurs que visiblement Gisèle Pellicot, malgré sa prestance, sa façon d'être claire, d'extrêmement bien s'exprimer, d'être constante, on voyait difficilement comment, moi je pensais intellectuellement qu'on ne pouvait pas la mettre en difficulté. Ça a quand même été tenté par les avocats de la défense. Mais en réalité, Gisèle Pellicot, elle est comme tout le monde. Personne n'est une icône. Et surtout, il faut se méfier de cela, parce que ça voudrait dire que d'autres victimes qui n'auraient pas son parcours de vie, qui ne s'exprimeraient pas aussi bien, ne s'habilleraient pas aussi bien, ne seraient pas aussi belles, que sais-je, n'auraient alors, elles, pas le droit à la compassion du public. Non, il faut vraiment s'en méfier. Mais le fait est qu'elle a eu ce geste très fort et que ça l'a mise en avant pour toujours.
Puisque vous parlez de cette question extrêmement complexe, extrêmement sensible, de la manière dont il faut absolument éviter de privilégier, entre guillemets, un profil de victime. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense que c'était important de faire cette émission un an après le procès, c'est que le temps s'étant écoulé, nous avons entendu récemment un témoignage de Caroline Darian, alors qui est la fille de Gisèle Pellicot, et qui avait écrit d'ailleurs, avant le procès, un livre qui s'appelait « Et j'ai cessé de t'appeler papa », où elle racontait comment elle avait vécu cette histoire. Je vous propose de l'écouter, c'était il y a quelques mois.
C'est un abandon terrible, parce que, mais vous savez, je pense que mon cas n'est pas un cas isolé. Je pense que dans les familles où il y a malheureusement des incestes, le crime d'inceste, les personnes concernées, vous savez, c'est systémique. Une famille, c'est compliqué. Ma mère n'a pas la capacité psychologique et émotionnelle de le reconnaître. C'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle ne peut pas. On ne peut pas céder mutuellement. Elle doit se reconstruire avec ce qu'elle a vécu. Et moi, je dois avancer aussi avec ce drame absolu qui est le silence et le doute qui subsiste.
Ces derniers jours, Caroline Darian a d'ailleurs accordé un entretien au Télégraphe où elle a des propos qui m'ont beaucoup interpellé. Elle dit qu'elle est une victime oubliée de cette affaire. Elle dit au sujet de sa mère qu'elle estime que sa mère n'est pas une icône, mais qu'elle a été catapultée en tant qu'icône. Et elle va jusqu'à dire qu'elle ne lui pardonnera jamais, en un sens, le sentiment qu'elle a eu, qui était un sentiment d'abandon au moment de ce procès. Alors évidemment, il ne s'agit pas un seul instant de remettre en cause le courage inouï de Gisèle Pellicot. C'est pas du tout, je crois, le sujet, mais de réfléchir à notre regard. Le regard qu'il y a de la justice. C'est vrai que dans les procès, on a peu parlé des violences, enfin de ces photographies de Caroline Darian où elle avait des sous-vêtements qui n'étaient pas les siens, donc qui laissaient penser qu'il y avait eu des violences sur elle. Et aussi dans les médias, dans les récits, c'est vrai qu'il a été moins question d'elle. Est-ce que vous pensez, Claire Bérest, que en effet Caroline Darian a été victime de ce que j'aurais tendance à appeler un schéma narratif?
Alors c'est une question hautement sensible parce que nous parlons de la souffrance absolue de gens qui souffrent actuellement et qui continuent à souffrir. Et il est indéniable que Caroline Darian n'a pas eu de réponse judiciaire qui lui aurait permis peut-être de commencer à se reconstruire, pour placer tout de suite cette chose-là. Quand on pose la question d'une invisibilisation possible, la vraie question ce serait de la part de qui ? Est-ce que ce serait de la part de la justice ? Est-ce que ce serait de la part des médias ? Ce sont les deux choses qui nous viennent à l'esprit. Est-ce que cette femme qui a été victime aurait été invisibilisée par des instances ou par des groupes ? Ce qui est intéressant, quand on a suivi le procès, évidemment que Madame Pellicot, Gisèle Pellicot, a été au centre de cette histoire tentaculaire pour des raisons extrêmement précises. C'est que quand l'instruction, après 30 mois, à tenter de faire le maximum avec un dossier hors norme, ils sont arrivés à un certain nombre de chefs d'accusation contre Dominique Pellicot, basés sur des indices graves et concordants. Et il se trouve que à l'intérieur de tous ces faits, de tous ces chefs d'accusation à l'encontre de ces hommes et Dominique Pellicot envers Madame Pellicot, il y a ces deux photos de Caroline Darian. Et en ce qui concerne les chefs d'accusation de Dominique Pellicot, ce serait, et peut-être que mes camarades me reprendront, fixation sur support d'images attentatoires à la dignité humaine, ou ce serait de cet ordre-là. C'est cette question que l'on a demandé au juge de trancher en ce qui concerne les photos et en ce qui concerne Caroline Darian, après l'instruction. Ça a été tranché dans le sens qu'il était coupable d'avoir eu des photographies qui étaient attentatoires à la dignité de sa fille. Ce premier procès, il n'était pas question de sortir d'un travail déjà titanesque en ce qui concernait les chefs d'accusation contre Dominique Pellicot et tous les hommes. Les juges de cette cour criminelle ont donc tenté de trancher pendant 4 mois avec beaucoup d'intensité dans un cadre qui est celui de la justice. Ça a été fait. Il est intéressant qu'effectivement Caroline Darian, en mars qui a suivi, s'est sentie le besoin et la nécessité, et on ne peut que la comprendre et avoir de la compassion, de porter plainte à son tour pour des choses très précises qui seraient agression sexuelle, viol ou administration de substances. Il faut donc laisser le temps à la justice, peut-être, d'investiguer ce second volet. Est-ce que la justice a tenté d'invisibiliser Caroline Darian ? Je ne pense pas. Est-ce que les médias, et alors là nous sommes tous concernés, nous tous qui avons rendu compte de ce procès, nous avons dans un premier temps suivi ce qui se passait dans cette salle. Et ça rejoint ce que je viens de dire. Ce qui se passait, nous avons tenté d'en faire un rapport le plus juste, en essayant tout sordide aussi. Je crois qu'on a tous été très très sensibles d'essayer d'informer sur cette histoire en évitant tout voyeurisme, en évitant de donner tous les détails atroces que l'on entendait. Ce travail a été fait. Je ne pense pas non plus que les médias ou la presse ont tenté d'invisibiliser. En revanche, il reste une douleur absolue, parce que cette histoire est tentaculaire, parce qu'elle a plein de tiroirs. Il y a l'effet possible sur Caroline Darian, peut-être sur les petits-enfants, il y a les cold cases. Enfin, vous voyez, ce sont des poupées russes. Cette histoire est sans doute loin d'être entièrement lavée, d'être entièrement traitée. Et nous ne pouvons qu'avoir de la compassion pour la douleur de Caroline Darian.
France Culture, sans préjugés. Nathan Devers.
Alors, questionner l'affaire Pellicot un an après, c'est réfléchir en effet à cet effet du temps, ce recul que nous avons, mais c'est aussi et je crois que c'est la raison du titre de cette émission, réfléchir au récit, aux différentes formes d'écriture qui ont pu exister sur ce procès et ce que ça implique que d'écrire une histoire et de la faire rentrer en un sens dans une narration. Alors pour donner un exemple qui est un peu lointain de l'affaire Mazan, il y a un livre de Proust que j'aime beaucoup qui s'appelle Pastiche et mélange où il s'inspire d'un procès, d'une affaire qui avait fait la une des journaux au début du siècle qui s'appelait l'affaire Lemoine, quelqu'un qui avait prétendu avoir inventé la formule du diamant, c'était un menteur et donc il avait été jugé. Et Proust a fait un exercice de style où il raconte ce procès en imitant les styles de plein d'auteurs différents, de Sainte-Beuve, de Flaubert, de Balzac, etc., etc. Et évidemment, ce qui est très amusant à lire ce petit livre, c'est que selon qu'on se place dans la perspective de Flaubert, de Balzac, de Sainte-Beuve, on a affaire à une histoire complètement différente, vue depuis un point de vue différent, avec une logique différente, des détails qui ne sont pas forcément les mêmes qui vont intéresser les auteurs. Et c'est un peu ces questions que j'aimerais vous poser, c'est-à-dire il y a eu le moment où vous couvriez l'événement, et puis quelles sont les conséquences de sa mise en récit. Alors Marion Dubreuil, je voulais vous poser la question à vous en premier, parce que il se fait que vous avez eu plusieurs sortes de narrations sur ce procès. D'abord, moi c'est comme ça que j'ai suivi le procès, c'est grâce à vous, dans les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux, où quasiment minute par minute, vous expliquiez extrêmement précisément ce qui se disait, qui parlait, comment, les visages, etc. Ensuite, il y a ce livre dont j'ai parlé, Mazan, La traversée du Styx, et puis le projet que vous avez évoqué. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, ces différentes formes d'écriture? Quelles ont été les difficultés peut-être de l'écriture livresque?
Je pense que lorsqu'on suit des audiences, il y a une dimension de durée, d'intensité, de multitude aussi, de choses. On en a parlé déjà, mais c'est une affaire qui convoque un nombre de sujets qui sont illimités. Et je pense que ce n'est pas anodin si aujourd'hui je suis dans une démarche de vouloir épuiser les formes pour pouvoir le raconter. C'est que quand j'étais à l'audience, j'avais envie de dessiner, de rendre compte des débats pour permettre de fixer aussi une vérité de l'audience. Aujourd'hui, je me rends bien compte que ça continue de m'habiter. Je ne suis pas prisonnière de cette affaire, mais elle suscite encore aujourd'hui des réflexions que je n'avais pas il y a un an. Et je trouve que l'écriture, le dessin, la réflexion a posteriori, la création, on en parlait aussi, permettent de prendre du recul et de trouver la forme adéquate pour raconter quelque chose de cette audience. Et je pense que si dans mon livre, par exemple, je raconte d'autres affaires, c'est parce que, en fait, pendant l'audience, il y avait aussi cet autre tiroir, mais dans ma tête à moi, de chronique judiciaire, de toutes ces affaires que j'avais traitées et qui faisaient écho à ce que je découvrais dans l'audience. Il y avait tout ce qui échappait au chef de prévention. Je me permets de revenir dessus parce qu'on a parlé de Caroline Darian, mais la captation d'images impudiques, le délit pour lequel Dominique Pellicot a été condamné à l'égard de sa fille, mais il n'est pas suffisant pour pouvoir décrire, pour pouvoir qualifier ce que sa fille a subi. On aurait pu retenir l'agression sexuelle, c'était une possibilité. Dans d'autres dossiers, les éléments qu'il y avait à l'encontre de Dominique Pellicot concernant sa fille auraient permis une mise en examen et des poursuites à ce titre. Je pense que l'écriture permet aussi d'interroger le cadre judiciaire, d'interroger ce procès vitrine qu'on a tous suivi et qui a fait l'image de la France dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et qu'il faut pouvoir questionner aujourd'hui. Questionner dans les apories, dans le fait que l'inceste n'ait pas été une piste d'investigation suffisante parce que on n'a pas proposé à Caroline Darian, par exemple, un prélèvement capillaire au moment de l'instruction. Voilà, parce que on a vu, entendu des viols conjugaux avoués à l'audience et que ça n'a pas fait l'objet d'une procédure incidente. Parce qu'il y a eu énormément de choses dans cette audience qui ne peuvent pas se résumer à une chronique judiciaire du quotidien.
Alors c'est très intéressant ce que vous dites, que cette audience, enfin que les enjeux de cette audience ne se réduisent pas, entre guillemets, au contenu de cette audience et qu'elle pose une infinité de questions. Louise Colcombé, j'ai l'impression que dans le travail collectif qui a été le vôtre, travail graphique et narratif, et collectif donc avec beaucoup de perspectives différentes, c'est aussi ce que vous avez essayé de faire. C'est-à-dire partir du procès Mazan, pour poser des questions. La question de la pornographie. Il y a des pages très, très intéressantes et très frappantes, même d'un point de vue visuel, sur la manière dont le corps de la femme est lui-même complètement aliéné, réifié dans la pornographie et tout un tas d'autres sujets. Comment vous êtes passé collectivement du récit des faits à des questions sociétales larges, complexes et variées?
Effectivement, moi je suis comme Marion, on échangeait beaucoup d'ailleurs pendant l'audience, c'est-à-dire que on se disait mais tiens, ça c'est exactement telle autre affaire, ça convoquait énormément de choses qu'on avait lues, entendues, couvertes, etc. Moi à un moment j'ai fait presque 70 articles pour Le Parisien, j'ai un confrère qui m'a dit « Louise, arrête, c'est inépuisable ». Alors évidemment quand on m'a proposé de travailler pour cette BD collective pour l'Iconoclaste, j'ai dit oui dans la minute, parce qu'en fait ça nous permettait de revenir à d'autres choses, d'interroger d'autres thèmes. Vous l'avez dit, par exemple, la pornographie. Moi, j'ai fait cet effort pendant les procès, et c'est, je pense, ce qui permet aussi de mettre une distance avec les émotions qu'on peut ressentir. Je me suis dit, comment cet homme-là, il a pu accepter cette proposition, y aller, pas voir le problème, toujours pas comprendre aujourd'hui quel est le problème, parce que c'était ça aussi, et dans quel bain culturel il a baigné, quel est le mot que Pellico a pu employer pour tromper sa vigilance, puisqu'ils venaient tous nous dire qu'ils avaient été manipulés. Donc j'ai fait cet effort d'essayer de comprendre. Et quand qu'on décortique tout, on se rend compte qu'en fait, ces hommes-là, ils baignent, malgré leur parcours personnel, ils baignent dans un bain culturel qui nous est commun. La construction de la virilité, par exemple, on en parle avec des exemples de la culture populaire. Et il y a tout un tas d'autres choses. Et pour revenir à l'inceste, on a beaucoup tenu à ce qu'il y ait ce thème-là, parce qu'il infusait par tous les pores, en fait. L'inceste, il est aussi dans la famille de Dominique Pellico. Il a grandi dans un contexte problématique. Il y en avait aussi chez certains accusés. Et cet inceste, oui, il a été invisibilisé d'une certaine manière par le process judiciaire lui-même, puisque captation d'images impudiques, c'est trois fois rien, c'est un délit. Et on n'avait pas beaucoup de temps, en fait. 4 mois, ça paraît énorme. En fait, on a fait rentrer dans une boîte à chaussures quelque chose qui aurait dû remplir un coffre entier. Cette histoire, elle est énorme. Donc, effectivement, ce thème-là de l'inceste, il a été invisibilisé, comme souvent, comme toujours. Et Dorothée Ducy, qui est anthropologue, qui a écrit un livre qui fait autorité sur la question, Le berceau des dominations, elle était à cette audience et on en discutait. Elle disait, là encore, en fait, on n'en fait toujours pas un sujet.
Claire Bérest, dans votre livre, ce que j'ai trouvé absolument passionnant, c'est la manière dont le récit de ce procès sert, alors je ne sais pas quel serait le bon mot, de miroir, de déclenchement, d'origine, à une réflexion plus large, narrative. D'abord, vous parlez de vous. Une réflexion aussi sur le mal, où vous convoquez beaucoup d'auteurs, Anna Arendt, surtout Simone Veil. Et puis, j'aimerais lire un passage de votre livre qui, je trouve, illustre très très bien la difficulté en tant qu'écrivaine qui a été la vôtre quand vous avez pour vous positionner. Quelle était la mienne de position vis-à-vis de l'affaire Pellico? D'autant plus quand on prétend parler du malheur de quelqu'un d'autre. Ai-je le droit d'écrire ce livre comme je le fais? J'y explore des pans de l'affaire avec de nombreux détails brutaux. J'y émets des hypothèses. J'adopte un regard surplombant. Je fouille. Je scrute des traumatismes qui me sont étrangers. Je spécule sur leurs causes et leurs conséquences. Enfin, dans les marges de mon récit, je me permets de parler de moi. Comment avez-vous réussi à trouver ce positionnement qui a été le vôtre dans votre livre « La chair des autres ».
L'écriture de ce livre, parmi tous mes livres, est vraiment particulier, spécifique, singulier. Il a été écrit très vite, à la suite du procès, dans une urgence, mais comme aussi dans une suspension, dans un flou. C'est comme si aujourd'hui, quand je regarde en arrière, ces 2 mois où je me suis enfermée 16 heures par jour pour l'écrire, c'est comme si je n'avais plus accès à ce moment-là, tant il était une bulle. Et tout en travaillant, tout en écrivant, je me posais constamment la question de la légitimité, de la place, de la distance par rapport à cette matière de souffrance innommable. Et je suis allée chercher effectivement des réponses, comme on cherche des compagnons et des compagnes de pensée. Et c'est vrai que Simone Veil, la philosophe, a été une sorte de lumière dans cette fange, une lumière de compréhension. Vous l'avez dit, Anna Arendt, mais c'est vrai que je me suis aussi accompagnée de nombreux autres écrivains qui ont fait face à la matière du fait divers, même si ce fait divers est devenu un fait de société. Là, je pense à Emmanuel Carrère avec L'Adversaire, et puis beaucoup plus tard avec V13 sur le procès du Bataclan, mais également Truman Capote. Tout revient à cette question de la distance, et je pense que c'est quelque chose qui nous harcèle toutes. Je parle à mes camarades. Quelle est la bonne distance? Et c'est vrai que j'ai retrouvé une phrase de Carrère dans une correspondance qu'il avait avec Jean-Claude Roman, l'histoire pour laquelle il a écrit L'Adversaire, ce fait divers absolument affreux. Et à un moment donné, il dit à Jean-Claude Roman, je me suis posé la question, est-ce que je pouvais dire, je le cite en substance, hein, est-ce que je pouvais dire « je » pour vous-même, mais ce n'est pas possible. Il me reste à dire je pour moi-même, pour rendre compte de votre présence. Cette espèce de jeu de à quel endroit je suis. Et c'est vrai que petit à petit, j'ai compris que mon chemin, mon humble chemin pour ce livre-là, serait en fait une sorte d'exploration du mal. Et pourquoi? Et je reviens sur ce que disaient mes consoeurs. La question, le champ lexical du mal s'est tellement invité dans ce procès. Le monstre, le diable, diabolique, on était presque au Moyen-Âge, si vous voulez, mais de façon extrêmement intéressante, le champ du monstre. Et qu'est-ce que c'est? Le monstre, à l'origine, c'est ce qui est contre nature, c'est ce qui crée rupture, et donc que l'on montre du doigt, parce que tout d'un coup, c'est contre la nature. Et effectivement, cette histoire, il y avait plein de gens qui sont des êtres humains, qui tout d'un coup avaient commis des actes qui cassaient la nature, qui étaient contre nature. Et effectivement, j'ai eu besoin, Barthes parlait justement du fait divers comme l'endroit où les choses cessent d'être nommées et on est dans le monstrueux. Et justement, j'ai eu besoin de revenir avec des gens que j'admire, Arendt, Veil, sur le cheminement de qu'est-ce que c'est que le mal. Et c'est invité vraiment dans les marges de cette histoire qui n'est pas la mienne, et ben aussi le jeu. Puisque je pense que dans la création, quand on n'est plus dans l'immédiateté du journalisme, de l'information, dans la création, qui est la définition de la poésie, poésie c'est la création, tout d'un coup on doit faire corps, absolument. Et faire corps, c'est mettre le jeu et être totalement incorporé dans ce que l'on est en train de relater.
J'aurais aimé qu'on écoute Roland Barthes, ça aurait été formidable. Malheureusement, nous n'avons pas le temps. En quelques mots, Marion Dubreuil, je voulais vous poser une question. Il y a quelque chose de très frappant dans votre livre, c'est que vous racontez que avec votre expérience, vous avez progressivement voulu sortir d'une position d'impassibilité, parce que vous pensez que l'écriture peut aussi réparer les failles de la machine judiciaire. C'est ce que j'ai trouvé très frappant dans votre livre. Est-ce que vous pensez que l'écriture de l'affaire Pellicot a pu avoir un effet bénéfique sur la société?
Je l'espère. En fait, j'espère que les apories de la justice peuvent trouver un prolongement dans l'écriture. J'espère que les gens qui liront mon livre, qui liront celui de Claire, de Louise, enfin de toutes les productions qui seront faites sur le procès Mazan, en sortiront grandis avec j'ai pas envie d'utiliser un anglicisme, mais en sortant plus fort, plus capable d'affronter le réel.
Merci beaucoup à vous trois. Merci, l'émission a été préparée par Aline Biette, réalisée et mise en onde par Souad Boukorsa. Merci à elle. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site et l'application de Radio France. Tout de suite, on se retrouve avec Antoine Guillot pour Plan Large.